C'est Christine Cossette au microphone. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission Croire d'hier à demain, réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Aujourd'hui, je reçois Yves Berriot, professeur invité à l'Institut de pastoral, où il a donné un cours sur Eti et les hommes. Sur la quatrième de couverture du livre qu'il vient de publier aux éditions Médiapol, on peut lire ceci. Eti et les hommes est une jeune juive néerlandaise qui a disparu tragiquement dans la nuit de la Shoah à l'automne 1943. Le journal intime et les lettres qu'elle a rédigées durant la Deuxième Guerre mondiale comptent parmi les documents spirituels les plus significatifs du XXe siècle. Au cœur de l'horreur, elle parvient mystérieusement à une joie profonde, arrive à percevoir la beauté de la vie, persévère à croire en l'homme et choisit d'être solidaire de son peuple jusqu'à le suivre dans les camps pour y apporter toute l'aide possible. Exceptionnelle par sa force d'âme, Eti se révèle aussi très moderne par son cheminement atypique. Puisant à la fois au judaïsme et au christianisme, mais sans jamais pratiquer ni adhérer à une confession religieuse, elle découvre au plus intime d'elle-même un Dieu que reconnaissent sans peine juifs et chrétiens. Ainsi, toute personne peut trouver en elle une compagne sur les chemins non balisés de l'aventure humaine. Yves Berriot dégage ici l'essentiel de l'histoire et de la vie spirituelle d'Eti et les hommes pour la présenter aux non-initiés comme pour éclairer la lecture de ceux qui apprécient déjà ses écrits. Son désir est de mieux faire connaître cette figure qui suscite de plus en plus d'intérêt et dont le monde n'a pas fini d'entendre parler. C'est donc pour entrer un peu plus et un peu mieux dans l'univers de cette jeune juive que nous accueillons aujourd'hui Yves Berriot. Yves Berriot, bonjour.
Bonjour.
D'abord, je dois vous dire que c'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cette émission Croire d'hier à demain, dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Alors, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Eh bien, c'est un plaisir pour moi d'être ici.
Nous parlons aujourd'hui donc d'Eti et les hommes, une jeune juive morte dans un camp de concentration nazi en 1943. Cette femme, elle nous a laissé son journal intitulé « Une vie bouleversée ». On sait qu'une cinquantaine d'années plus tard, après sa mort, plusieurs ouvrages, des livres, des articles sur ce journal-là ont été publiés. Alors, d'après vous, pourquoi cet engouement pour ce journal à ce moment-ci de notre histoire? Et pourquoi vous, Yves Berriot, vous avez écrit sur le journal d'Eti et les hommes?
Bien, tout d'abord, on constate en tout cas que les biographies sont vraiment à la mode. Les histoires de tous et chacun, les gens s'intéressent beaucoup. Ensuite, nous sommes dans un contexte de crise politique, crise écologique, crise économique, et quand on pense aussi à la jeunesse, la direction qu'ils veulent donner à leur vie, ils sont très en recherche, crise des valeurs. Et Eti et les hommes interpelle les jeunes. Un de mes constats, un jour, alors que j'étais dans une librairie, c'était de voir que c'était le coup de cœur des libraires.
Ah, oui.
Un journal comme celui d'Eti et les hommes, ceci m'avait beaucoup impressionné. Mm-hmm. Et donc, elle interpelle à la fois des jeunes croyants, non-croyants. C'est l'intensité de la vie de cette jeune femme. Je dirais son héroïsme dans une époque très douloureuse, qui est celle de la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. Depuis cette guerre, beaucoup de ceux qu'on a appelés les diaristes, ceux qui écrivaient des journaux personnels, oui. C'était un peu la seule manière de s'affirmer dans un contexte d'oppression, de domination. Le tout a commencé avec une Anne Frank, et depuis, plusieurs de ces journaux ont été découverts. Et celui d'Eti et les hommes, eh bien, on le connaît seulement depuis le milieu des années 80. Alors, Eti et les hommes fait partie de cette longue liste de témoins qui devient un modèle pour bien des gens, une héroïne de la condition humaine. Et personnellement, bien, j'ai toujours été intéressé à cette époque.
Oui, alors vous avez été bien attiré par ce journal en particulier, plus que d'autres dont vous parliez, là.
Oui, bien, d'une part, c'est que je me suis toujours intéressé à la Deuxième Guerre mondiale et au phénomène de la Shoah. Mon père ayant été soldat pendant la Deuxième Guerre, j'ai beaucoup entendu parler de cette guerre, j'ai vu les documentaires et je pense que très jeune, j'ai été frappé par l'horreur de cette guerre. Et je me suis toujours demandé comment les gens qui avaient vécu cette épreuve avaient pu réagir. Et en est-il somme? Moi, j'avais lu une recension à son sujet et spontanément, je m'étais dit, tiens, un jour, j'aimerais bien lire ça. C'est en 92 et je lirai le livre seulement en 2001. Je l'aurais trouvé par hasard dans une librairie en France. Ce fut ma lecture de Semaine Sainte à l'époque, alors que j'étais chez les Dominicains de Toulouse, et ça a été le coup de foudre avec cette histoire émouvante,
oui.
Très touchante.
Est-ce qu'on sait dans quel contexte elle est morte exactement?
Bon, ça c'est un grand inconnu. Moi, c'est une question qui m'a habité après avoir lu son journal. J'ai commencé à lire d'autres livres à son sujet. On m'a demandé éventuellement de donner une session sur elle, donc ça m'a amené à beaucoup travailler son histoire. Et c'est ce qui manquait, je trouvais. Et puis, bon, on ne peut pas inventer non plus des fins aux personnes auxquelles on est attaché. Est-il somme, c'en est une. Ce que l'on sait d'elle, c'est qu'elle a été déportée avec un frère et ses parents le 7 septembre 1943 de la Hollande vers le camp de Auschwitz. Ce qu'on trouve dans plusieurs commentaires à son sujet, c'est qu'elle serait morte le 30 septembre 1943. Et ça, c'est la Croix-Rouge néerlandaise qui avance cette date. Moi, j'ai pris contact avec différents organismes, oui. Dont la Croix-Rouge, pour découvrir que finalement, c'est une date fictive, d'une certaine manière. On ne la connaît pas, la date, mais c'est qu'après la guerre, on voulait quand même un peu situer à quel moment elle avait pu mourir. Comme elle était une jeune femme encore active, dans la force de l'âge, eh bien, ces femmes qui arrivaient à Auschwitz n'étaient pas tuées immédiatement.
Non,
elles étaient mises aux travaux forcés. Mm-hmm. Et habituellement, les femmes pouvaient survivre environ 2 mois, 2 mois et demi.
Ah, oui.
Et donc, on a postulé qu'elles devaient être mortes vers la fin novembre. Et on a avancé la date du 30 novembre, mais on ne le sait pas. Ce que l'on sait, c'est que elle part pour Auschwitz et toute sa famille va mourir dans les camps.
Est-ce qu'on sait qui a retrouvé et où on a retrouvé son journal?
Bien, le journal avait été confié à une amie infirmière, une chrétienne avec qui elle habitait à la pension où elle était gouvernante à Amsterdam, qui s'appelait Maria Twinsing. Et donc, elle lui remet ses cahiers alors qu'elle va retourner travailler au camp de Westerbork. Il y a toute une histoire autour d'Est-il somme, on y reviendra, mais avant d'être déportée, elle-même va travailler comme aide sociale et fait des allées venues entre Amsterdam et le camp. Et une partie du journal, une bonne partie est rédigée à Amsterdam, mais certains des journaux sont écrits dans le camp même, ainsi que les lettres, surtout les lettres. Et donc, quand elle sait qu'elle retourne au camp et qu'elle risque d'y rester, elle remet ses cahiers à Maria Twinsing. Après la guerre, ses cahiers sont remis à Klaas Melik, qui est un ami de cœur d'Est-il somme, qui était dans la résistance. Les amis d'Etty vont essayer de faire publier son journal, et il n'y a aucun intérêt après la guerre pour ce genre de publication. Et les cahiers tombent dans l'oubli, dans un grenier. Et c'est le fils de Klaas Melik qui, dans les années 80, c'est 86 ou 82, ont publié en néerlandais pour la première fois le journal d'Est-il somme.
Vous avez dit tout à l'heure, et vous le dites de toute façon dans votre livre intitulé « Est-il somme, témoin de Dieu dans l'abîme du mal » que vous avez publié aux éditions Mediapol, que la jeune femme aurait collaboré au camp de Westerbork avec l'occupant allemand. Est-ce qu'elle s'est culpabilisée à certains moments de cette situation-là? Parce qu'au fond, c'est comme si elle contribuait à la propre destruction de son peuple, finalement.
C'est une expression qu'elle va employer elle-même.
Oui, c'est ça. Ouais.
Hein, que nous contribuons à la destruction de notre propre peuple. Elle-même va écrire, ici le 28 juillet 1942, « La collaboration apportée par une petite partie des Juifs à la déportation de tous les autres est évidemment un acte irréparable. L'histoire aura jugé. » On voit bien que Est-il somme est habitée par cette situation. Puis en même temps, elle va y revenir alors qu'elle est à Westerbork, qu'elle voit les prisonniers. Elle aide les mamans, les bébés se préparer pour le grand voyage dont on ne connaît pas l'issue quand même. Elle soupçonne que c'est
la
mort.
Elle soupçonne que c'est le voyage vers la mort.
Elle le soupçonne. Mais en même temps, il y a un espoir qui est là aussi. Hein, on alterne entre l'espoir puis le désespoir chez les prisonniers qui sont là-bas. Est-il somme, si elle collabore au camp, il faut bien situer cette collaboration, c'est que quand les nazis envahissaient un pays, un des buts, entre autres, en plus de la domination, était l'extermination des Juifs d'Europe. Et donc, on mettait sur pied dans les grandes villes, les capitales, un conseil juif avec des notables, des gens bien placés, et on leur expliquait, et c'était l'appât, qu'on avait besoin de jeunes ouvriers pour les envoyer vers l'Est, et qu'éventuellement même on voulait préparer un territoire où les Juifs pourraient vivre. S'il n'y avait pas collaboration, eh bien, ce serait la déportation de force. Donc, on commençait à dresser des listes, on collaborait avec les Allemands afin de fournir des jeunes entre 22 et 30 ans. Et à un moment donné, eh bien, là, on demandait ceux qui avaient entre 30 et 40. Et ensuite, on demandait les plus jeunes. Et on avait mis les doigts dans l'engrenage et on ne pouvait plus reculer. Etiel Soum va se retrouver à un tel comité envoyé par des amis et elle-même se plaint de cette situation dans laquelle elle se trouve. Elle y passe 2 semaines et trouve ça inacceptable.
Oui.
Ce genre de dynamique où chacun essaie de sauver sa peau. Et elle-même va demander d'aller travailler auprès des prisonniers qu'on rassemble en Hollande, qu'on envoie dans ce camp de Westerbork, qui est un camp de détention ou de transit qui existait même avant le début de la guerre, parce qu'il y avait des réfugiés qui arrivaient d'Allemagne. Mm-hmm. Les Juifs fuyaient déjà l'Allemagne et on les mettait dans ces camps. Quand les Allemands envahissent, eh bien, ils s'occupent du camp qui sera gardé néanmoins par des Néerlandais. On ne veut pas apeurer les prisonniers. Donc, ce n'est pas un camp où il y a des sévices et des violences innommables, comme on va voir dans les camps d'extermination, mais c'est quand même un camp avec des barbelés. Et Etiel Soum peut y aller, passer 2 semaines, retourner chez elle, apporter des médicaments, des vêtements, s'occuper des gens désemparés qui arrivent. Elle va toujours s'interroger quant à son rôle dans ça, et en même temps, elle va dire « on n'a pas de réponse en ce moment, on est pris dans un drame qui nous dépasse ».
On sait qu'elle venait d'une famille juive. Cependant, quand on lit « Une vie bouleversée », on n'a pas l'impression que c'est une juive convaincue, très religieuse, attachée à des pratiques, des rites précis. Alors, que dites-vous de l'identité juive d'Etiel Soum?
Oui, c'est une famille juive sécularisée, comme on a des familles catholiques sécularisées.
Oui, oui.
C'est un peu la même dynamique qu'une famille plutôt intellectuelle. Pourtant, Etsy a reçu l'éducation juive, les enfants dans la famille aussi. Je suis allé à Deventer, où a vécu la famille Il Soum, et il y a un centre juif qui est dédié à Etiel Soum dans cette ville. Et l'on me disait que la famille avait quand même été enregistrée à la synagogue jusqu'en 1937. Donc, après ça, ils n'y sont plus enregistrés, mais il y a une appartenance qui est là, mais qui ne s'exprime pas vraiment dans la famille, au point où la famille va être critiquée par d'autres membres de la famille qui trouvent que les Etiel Soum ne prennent pas très au sérieux leur foi, le père n'observe pas le sabbat, il va parfois travailler le samedi. Donc, Etiel Soum, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été marquée par le judaïsme, mais on va le voir dans son attachement à ceux qu'elle appelle son peuple.
Oui. Et pourtant, vous mentionnez dans votre livre que le mot « Dieu » apparaît 400 fois dans son journal.
Mm-hmm.
En même temps, elle dit que ce mot de Dieu lui apparaissait inutile.
Oui.
Alors, comment expliquer tout cela?
Oui, c'est le paradoxe. Quand elle parle de sa jeunesse, elle rappelle quand elle était adolescente, il y a un fleuve là, qui traverse cette ville. Elle y voyait l'action de Dieu dans cette création autour d'elle. Elle le mentionne. Hein? Et à un moment donné, elle va le dire. Moi aussi, avant, j'étais de ceux qui disaient « je crois en Dieu ». Sa mère va reprendre la même formule. Donc, ce n'est pas un athéisme militant qu'on va retrouver chez elle. Peut-être agnosticisme à l'occasion, à travers ses études universitaires. Mais Etiel Soum ne s'est jamais engagée dans une démarche où elle coupait complètement sa foi. Ce qui est clair, c'est que cette foi ne s'exprimait pas, ni dans la famille, ni personnellement.
Est-ce que vous pouvez ici dire qui est Dieu pour elle à ce moment-ci?
C'est que quand Etty va faire sa rencontre de Dieu, cette rencontre est tellement foudroyante pour elle que le mot Dieu qu'on emploie à toutes les sauces, mon Dieu que ça va mal, qu'elle entendait bien autour d'elle quand elle dit moi aussi avant j'étais dessus, qui disait je crois en Dieu, mais c'est que le mot Dieu était employé à tort et à travers et elle se rend compte que c'est un mot qui est bien pauvre pour elle, pour désigner sa relation avec ce qu'elle vient de découvrir en elle-même et qu'elle ne peut qu'appeler Dieu.
Oui, et qu'est-ce qu'elle a découvert, là, finalement?
Bien, est-il somme, bon, il faut savoir qu'elle approche de 26 ans quand elle va voir un psychologue, chirologue, c'est-à-dire qui travaille à partir des lignes de la main, qui est un psychothérapeute juif, qui est allemand, mais qui a fui en Hollande. Et on lui conseille d'aller le voir parce qu'elle... Elle vit une crise d'identité. C'est une jeune fille libre, très libre, dans les mœurs. Elle va même choquer parfois ses amis universitaires qui eux-mêmes sont plutôt de gauche. Mais cette vie un peu dissolue la conduit à une forme de réaction dépressive. Elle se dévalorise et on lui conseille d'aller voir ce thérapeute, ce qu'elle fait. Et c'est à son contact, ce dernier s'intéresse au Nouveau Testament. C'est un grand spirituel, il connaît Maître Eckhart, Augustin, Dietrich Bonhoeffer, une foule de textes de pasteurs protestants. Pourtant, il est juif, on ne voit pas qu'il aille à la synagogue, ce n'est pas un chrétien non plus, il ne se définit pas comme chrétien. Et il va, dans le cadre de la thérapie, inviter Etiel Soum à faire la lecture de la Bible et en particulier du Nouveau Testament et d'Augustin, les Confessions.
Et est-ce que c'est là qu'elle découvre Dieu?
C'est-à-dire que c'est le départ, c'est le point de départ. Julius Speer, peu de temps après, elle va vivre cette rencontre, oui, dans un moment de méditation, parce que ça fait partie de la thérapie, ce qu'elle appelle son heure bouddhiste ou sa demi-heure. Et elle apprend peu à peu à entrer en contact avec elle-même, hein, ce qui lui faisait peur jusqu'à un certain point. Une jeune femme très intelligente, très sensible, mais qui avait peut-être peur d'elle-même, de ce qui l'habitait comme émotion, comme recherche affective. Et Julius Speer, d'une part, l'aide à établir un certain équilibre dans cette relation thérapeutique, qui va aller très loin, on le verra. Mm-hmm. Et en même temps, il l'oriente vers une redécouverte d'elle-même à travers ces moments de méditation qu'il lui suggère de faire à tous les matins. Et c'est à l'occasion d'une de ces demi-heures de méditation où elle est sur la galerie, il fait soleil, le vent dans les feuilles, les petits oiseaux. Elle va vivre une première expérience de fascination, une expérience de type quasi mystique.
Oui.
Ça va se répéter dans sa vie. Hein. Mm-hmm. Sorte d'extase devant son être qui est là, situé au cœur de la vie. Et c'est l'amorce.
Dans cette expérience mystique-là, est-ce que c'est un Dieu qui se rapproche de celui des chrétiens?
Etiel Soum cite le Nouveau Testament dans son journal, oui, hein, à plusieurs reprises, l'Ancien aussi, mais surtout le Nouveau. Elle va citer Augustin et à un moment donné, après avoir lu Augustin, elle va dire « On ne devrait écrire des lettres d'amour qu'à Dieu seul. » Donc, Etiel Soum vit une relation avec le Dieu qu'elle découvre, cette présence en elle-même, elle est consciente qu'il est à la source de sa vie, qu'il est le créateur du monde, des hommes et des femmes, de toute la vie qui l'entoure. Et dans cette rencontre, elle découvre tout à coup qu'elle a sa place dans le monde. Elle se sent aimée, elle est quelqu'un. Sa vie, tout à coup, prend une direction. Et en citant ce qu'elle dit au sujet des écrits d'Augustin, parce qu'elle dit de lui « quel feu ». Elle le trouve parfois sévère, mais en même temps « quel feu, quelle passion ». Et c'est tout à fait cette passion qui l'habite. Donc, sa relation avec Dieu est une relation personnelle, un Dieu proche, vivant, un Dieu d'amour.
Ça ressemble étrangement au Dieu des chrétiens. Est-ce que ça fait d'elle pour autant une chrétienne?
Ben, nous sommes dans la mouvance judéo-chrétienne,
oui,
à la fois judaïsme et christianisme, puisqu'elle puise aux deux traditions. À la fois, elle vient d'une famille juive. Etiel Soum est juive. Et quand on lui demande, lors de son inscription au Conseil juif d'Amsterdam, de remplir sa carte,
oui,
d'identité,
oui,
elle doit indiquer sa religion et elle va mettre « juive libérale ». C'était soit libérale ou orthodoxe. Donc, juive libérale. Hein. Elle ne met pas athée, elle ne met pas chrétienne. Elle est juive, est-il soum, fille d'Israël. Et en même temps, bien, elle se nourrit de textes spirituels, de la tradition chrétienne aussi.
ce balancement entre le christianisme et le judaïsme vient peut-être exprimer son grand désir de liberté par rapport à une religion quelle qu'elle soit. Elle parlait de la demeure bouddhiste.
Oui. Oui, ça, on voit ça au tout début. Oui. Ça, uh-huh. C'est à une reprise seulement. On ne sent pas qu'on est dans cette mouvance du tout avec Etienne et Soum. Okay.
Mm-hmm. Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle a ce désir de liberté?
Oui, elle a ce désir de liberté parce qu'elle découvre une liberté nouvelle à ce contact de celui qu'elle appelle mon Dieu. Ça lui donne des ailes, elle va sortir de sa coquille, même après la mort de Julius, de qui elle était très dépendante au départ. Il y a une maturité qui s'affirme après le départ de Julius, qui est incroyable. Et donc, Etienne Soum, dans un contexte, comme le soulignait l'auteur Alexandra Plechoianou, qui fait une thèse de doctorat sur Etienne Soum, elle dit que Etienne Soum se méfie de tous les ismes, communisme, socialisme, et pourquoi pas catholicisme, protestantisme, judaïsme. Il faut comprendre que ce que Etienne Soum nous livre d'elle-même couvre 2 années et demie de sa vie. Hein? On ne peut pas demander plus que ces pages peuvent nous donner, mais ce qui est clair, cette jeune femme qui commence ce cheminement à 26 ans, découvre une liberté nouvelle et n'est certainement pas intéressée à s'enfermer dans des cadres qu'elle ne connaît même pas de toute manière, mais elle va participer au tout début de sa démarche avec Julius Speer à un débat que lui va animer avec un rabbin juif. Et ce débat s'intitule « Le Christ et le judaïsme ». Et Julius défend la vision chrétienne où on connaît peu d'éléments du débat, mais par les commentaires qu'en fait Etienne Soum, après le débat, on comprend qu'on s'échauffe pour rien d'après elle. Elle n'est pas prête à s'engager et à prendre position. Okay. Elle le dit.
Ni d'un côté, ni de l'autre.
Et elle revient le lendemain sur cette question-là, mais on est tout au début. Cette question-là ne reviendra pas dans le journal. Okay. Aucune mention du Christ en soi, sinon en citant les évangiles, mais elle n'aborde pas du tout la problématique. Moi, j'ai tendance à croire que c'est là une omission peut-être significative, que ce n'était pas le temps, ni la place, ni l'heure d'entrer dans ces préoccupations, christianisme, judaïsme, alors que son Dieu la fait vivre. Elle ne cherche pas à lui donner une étiquette. Et alors qu'elle vit un drame qui la rend solidaire de son peuple comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Hein, ce drame la confirme dans son identité de juive. Non pas tellement en termes de la juive croyante, religieuse, mais en termes de juive qui appartient au peuple juif. Et donc, je pense qu'Etsy, ça c'est mon hypothèse, a volontairement ou inconsciemment mis de côté ce débat ou n'a pas voulu en tout cas en traiter dans son journal ou s'y engager activement.
Nous reprenons cette entrevue avec Yves Berriot, dominicain. Yves, alors on disait donc, Etienne Soum, c'est cette jeune juive morte dans un camp de concentration nazi qui est restée juive, solidaire de son peuple jusqu'à la mort, même si elle s'est quand même intéressée au christianisme en lisant, comme vous disiez tout à l'heure, les évangiles. Dans cette expérience dramatique de mort et de souffrance aussi, elle aurait fait une expérience d'intimité avec Dieu. Peut-on savoir comment elle en est arrivée là?
Bien, le tout, comme je le mentionnais précédemment, a commencé avec ses méditations. Par la suite, ce qui va se produire chez elle, quand je parlais tout à l'heure d'expérience mystique ou d'extase, il y a des moments où elle est saisie par Dieu. Elle prend un temps de réflexion, elle s'arrête et tout à coup, elle le dit, « Je me suis retrouvée à genoux sur le sol, dans la salle de bain. » Elle se cache, elle ne veut pas qu'on la voie prier. Mais c'est plus qu'une prière, c'est d'être saisie et de sentir monter en elle un amour, à la fois une supplication pour les gens autour d'elle. C'est vraiment être saisie par Dieu. Et elle en pleure et elle le dit. Et cela se produit à plusieurs reprises chez Etienne Soum. Et souvent, ce sont des larmes de joie, de gratitude pour cette vie qui l'habite. C'est véritablement ça. Et elle va parler d'elle-même ou de cette vie qui l'habite comme d'un puits qui est couvert de gravats. où elle doit creuser afin de dégager Dieu en elle.
Jeune, donc, elle sent la présence de Dieu en elle. Cependant, on disait tout à l'heure qu'on peut voir apparaître, dès les premières pages de son journal, une jeune femme aux prises avec des difficultés d'ordre affectif, vous oui. le disiez tout à l'heure. Est-ce que cet état affectif l'a empêché ou est venu obscurcir sa relation avec Dieu?
Ben, au contraire, bien, c'est cet état affectif qui l'a amenée à chercher de l'aide.
Et c'est là qu'elle a rencontré...
Julius Speer.
Oui.
Et c'est lui qui la met sur la piste de la méditation et de la Bible mm-hmm. et des lectures spirituelles. Et il faut savoir qu'avec Julius Speer aussi, on avait des groupes de discussion autour de l'Évangile de Saint Jean, par exemple. C'est sûr que la perspective était psycho-spirituelle quand même. Mais néanmoins, est-il somme, se familiarisait avec Saint Jean. Chez elle, à tous les matins, c'était lecture de psaumes. Lecture de l'Évangile à tous les matins, le soir avant de se coucher, la prière, et n'importe quand dans la journée, une prière pouvait lui monter au cœur, elle rendait grâce, et la joie est un thème dominant hein, qui traverse son journal malgré l'horreur. Donc, c'est un apprivoisement peu à peu qui se fait en elle, et ses difficultés l'ont amenée à cette ouverture. Parce que souvent, faut bien le reconnaître, je pense qu'il y a des gens qui ont de la difficulté... avec l'idée de croire en Dieu, hein?
Mm-hmm, bien
des
sûr,
gens.
Bien sûr.
Et souvent, bien, c'est des gens aussi qui ne sont pas nécessairement en situation de difficulté. Ils ont une vie aisée, tout va bien, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de Dieu? Je l'ai entendu plusieurs fois.
Mm-hmm.
Et ils voient comme une faiblesse quand quelqu'un est malade ou subit une épreuve de oui. se tourner vers Dieu.
Oui.
Mais en fait, c'est que dans l'épreuve, l'être humain prend conscience aussi de sa fragilité et commence à s'interroger peut-être sur les raisons fondamentales qui animent sa vie, quelle est sa direction. Quand tout va bien et qu'on est occupé, ce ne sont pas des questions qu'on se pose.
Mm-hmm.
Et Etienne Somme, à partir de sa fragilité, est amenée dans une démarche où elle doit se demander où mène sa vie, parce qu'Etienne Somme le mentionne. Elle a contemplé le suicide à quelques reprises.
Ah, c'est vrai, hein?
Elle
ah,
a
oui.
contemplé
ah,
le suicide.
Oui, oui.
Elle n'est jamais passée à l'acte. Hein? Ça n'a jamais été sérieux à ce point. Mais néanmoins, même une fois qu'elle a commencé son cheminement spirituel... Ce qu'elle a apporté est tellement difficile comme oppression autour d'elle qu'au début, elle le
oui.
dit, ce soir j'avais cette tentation en entendant passer les avions, mm-hmm. s'ils pouvaient laisser tomber leurs bombes sur moi.
Oui.
Mais ce n'est plus ce qu'on va retrouver comme discours plus tard dans son journal et ses lettres.
Oui. J'aimerais peut-être revenir sur ce geste-là qu'elle a posé de se mettre à genoux. Hein?
Oui.
Elle a pourtant dit qu'elle était la fille qui ne savait pas s'agenouiller.
Oui.
Ça donne l'impression que ce geste-là, pour elle, est très important dans sa relation avec Dieu.
Bien, quand elle dit, elle voulait, d'ailleurs, c'est le titre qu'elle voulait donner si jamais son journal était publié, elle songeait à devenir écrivaine
oui.
et psychologue.
Mm-hmm.
Et elle voulait donner ce titre, « La jeune fille qui ne savait pas s'agenouiller ».
Et pourquoi?
Bien, elle n'avait pas rencontré Dieu. C'est dans ce sens-là.
Ah, oui.
C'est non pas parce qu'elle était rebelle, du moins, mm-hmm. Je ne l'ai jamais compris ainsi. C'est que c'est au contact de Julius Speer et d'une amie chrétienne, Annie Tiedemann, okay. qu'elle va apprendre cette manière de prier à genoux. Et elle va le dire, nous, les Juifs, ne connaissons pas cette façon de prier. Il y a une référence... assez direct
au
ici,
christianisme,
au christianisme,
ici.
À son influence, dans une forme physique de prier, une manière corporelle de prier. Maintenant, est-ce qu'elle se tenait droite sur ses genoux
oui.
ou repliée comme on fait dans la méditation? Peu importe, mais c'est ce qu'elle voulait dire. Mais c'est surtout ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle ne savait pas prier. Et la prière devient son trésor le plus précieux.
Oui.
Et c'est ce qui la soutient dans son combat. C'est vraiment un combat qu'elle mène.
Oui, bien évidemment.
Oui.
Cette relation intime avec Dieu, on le voit dans son journal, reste bien vivante malgré l'horreur qu'elle sent autour d'elle. Et elle le décrit admirablement bien dans son texte du 1er juillet 1942. Alors, si vous voulez bien, nous allons d'abord écouter ce texte.
D'accord.
Du soleil sur le balcon et une brise légère à travers le jasmin. Oh oui, le jasmin. Mon Dieu, comment est-ce possible? Il se tient là, tout coincé entre le mur dénudé du voisin et le garage, surplombant le toit plat, noir et boueux du garage. Il est si radieux, si virginal, si libre et si tendre au milieu de toute cette grisaille et de cette pénombre boueuse, comme une jeune mariée exubérante perdue dans une ruelle. Je n'arrive pas à saisir combien ce jasmin est beau. Mais cela n'est pas nécessaire. Il suffit de croire au miracle en ce 20e siècle, et j'y crois, même si les poux doivent me dévorer d'ici peu en Pologne. Ce jasmin, les mots me font défaut à propos de ce jasmin. Il est là depuis longtemps, mais c'est seulement maintenant que les mots commencent à me manquer à son sujet.
Comment expliquer, Yves Berriot, ce sentiment qui envahit les Sommes alors qu'elle sent le drame de la mort qui est imminent?
Bien, quel texte, hein, c'est, qui est magnifique. On voit toute la qualité littéraire du journal d'Étienne Somme. Étienne Somme, on le sent bien, c'est une contemplative d'une certaine manière, contemplative de la condition humaine, mais de la présence de Dieu dans ce quotidien qui est le sien à ce moment-là. D'ailleurs, elle le mentionne à plusieurs reprises, hein, qu'elle se sent tirée par la vie du monastère, par le cloître, mais que sa place est dans le monde.
Oui.
Et alors qu'elle est en train de méditer, elle contemple le jardin dans la cour derrière chez elle. Et moi, ce qui m'est toujours apparu à travers cette lecture, c'est comme si elle faisait une lecture de sa vie tout à coup. Elle est fascinée par la blancheur de ses feuilles, de ses fleurs, au-dessus du toit de ce garage boueux, sombre. Je la vois, moi, comme cette jeune mariée exubérante, perdue dans une ruelle. Hein, c'est vraiment une image d'Étienne Somme elle-même dans le drame qu'elle vit.
Exactement.
C'est une image où il y a plein de lumière à travers les ténèbres. Il y a une joie qui se dégage, qui va triompher. Hein.
Mm-hmm. C'est un peu... Oui, exactement. Une joie qui va triompher malgré l'horreur qui l'envahit, qui l'habite au quotidien.
Oui.
C'est ça.
Et c'est une constante chez elle. On retrouve jusque dans les dernières lettres, alors qu'elle est à Westerbork, à quelques semaines de la déportation, des larmes de joie qui, tout à coup, l'envahissent. Elle rend grâce à Dieu pour ce qu'il lui apporte et sa mission en même temps.
Malgré l'horreur. Il y a aussi cet autre texte émouvant, écrivez-vous dans votre livre, et qui donne à sa relation à Dieu une dimension extraordinaire. Alors, nous allons écouter encore ce texte d'Étienne Somme, écrit le 18 juin 1942.
Entre ma machine à écrire, un mouchoir et une bobine de fil noir, ma rostée se fane. Elle est d'une beauté et d'une délicatesse presque insoutenables. En s'étiolant doucement et avec résignation, elle commence à quitter cette vie courte et froide. Elle est si fragile, si charmante et d'une telle grâce devant sa mort lente que j'en ai presque le cœur brisé. Une rostée aussi, il faut la laisser mourir tranquillement en silence, au lieu de s'y cramponner avec passion et désespoir. Avant, je pouvais être inconsolable et ressentir une tristesse incompréhensible à la vue d'une fleur fanée. Mais il faut aussi apprendre à accepter le dépérissement dans la nature sans y opposer de résistance et savoir qu'il y a toujours une nouvelle floraison.
On le voit, le thème des fleurs chez Étienne Somme est important.
Oui.
Et d'ailleurs, des amis vont lui en faire le reproche parce qu'elle arrive à la maison avec des fleurs. On est dans un temps de pénurie. Elle trouve le moyen de s'acheter quelques fleurs. Et on lui dit, mais comment peux-tu penser à des fleurs dans des circonstances comme sont les nôtres?
Exactement.
On pense que c'est une tête de linotte,
mais oui.
Une jeune écervelée, ce qui n'est pas le cas, hein, au contraire. C'est une âme de poète, Étienne Somme. Et ses fleurs sur son bureau, alors qu'elle écrit, la renvoie encore une fois à elle-même, hein, quand elle dit « Mais il faut aussi apprendre à accepter le dépérissement dans la nature. »
Mais alors, elle nous réconcilie, n'est-ce pas, avec la vie telle qu'elle est. On vieillit, on est appelé à mourir, mais malgré tout ça, il me semble qu'elle ne voit pas que du négatif.
Mais elle a tout un discours aussi au sujet de la mort.
Oui.
À quel point une vie doit être donnée et entièrement donnée, sinon ce n'est qu'une vie vécue à moitié. Et elle blâme ceux qui sont prêts à tous les compromis pour sauver leur vie. Mais elle dit, mais à ce moment-là, il ne nous reste qu'un tout petit bout de vie et on concède de notre humanité afin de survivre, mais véritablement vivre, c'est accepter même de perdre sa vie. Mais il y a une espérance chez elle, on le voit bien, et savoir qu'il y a toujours une nouvelle floraison.
Dans votre livre, Étiez les sommes témoins de Dieu dans l'abîme du mal, vous avez un très beau chapitre sur sa prière. D'abord, la prière de demande. Alors, qu'est-ce qu'elle demande dans sa prière?
Étiez va le dire qu'elle ne demande rien. Elle n'ose pas demander pour elle-même, alors que les gens autour d'elle manquent de tout. Et tout ce qu'elle demande, c'est la force de persévérer.
Ouais. Alors, elle demande la force de persévérer. Et lorsqu'elle le prie pour les autres, qu'est-ce qu'elle demande?
Elle demande la même chose pour les autres.
Ah, c'est vrai.
Pour elle, ce qui compte, surtout dans les temps où ils sont probablement voués à la mort, ce qui est important pour Étiez les sommes, c'est d'avoir Dieu en soi.
Oui.
Qu'il est la seule force capable de faire sens de l'épreuve qui s'abat sur son peuple, même si ça conduit jusqu'à la mort. D'être capable de garder sa dignité humaine, sa foi en Dieu et sa foi en l'homme, en dépit de ce que l'homme fait subir à l'homme dans ce contexte de guerre
et de
persécution.
Ah oui, ça c'est très grand.
Alors pour Étiez, ce qui compte, comme elle va le dire dans sa prière, à Dieu, un peu de toi en nous, mon Dieu.
Ah oui.
Un peu de toi en nous. Et donc, c'est ce qu'elle demande pour les autres et pour elle-même. Mais sinon, elle fait des prières où elle va demander « Et Dieu protège les Juifs de Rotterdam alors que la ville est bombardée. » Elle va prier pour un jeune soldat allemand. Elle prie pour les ennemis aussi, pour les amis. Mais c'est toujours en lien avec cette capacité de maintenir en soi cette dignité humaine qui est la nôtre et que sa foi lui fait découvrir.
Ah oui. Sa prière la plus belle, c'est peut-être celle de confiance et d'abandon, hein? Celle que l'on retrouve entre autres dans son journal du 30 mai 1942.
Me voilà tout à coup reposant contre la poitrine nue de la vie. Et ses bras qui m'enlacent sont si doux et si protecteurs. Et le battement de son cœur, je ne saurais même pas le décrire. Si lent, si régulier, si doux, presque étouffé, mais si fidèle, assez fort pour ne jamais cesser, et en même temps si bon, si miséricordieux. Tel est une fois pour toutes mon sentiment de la vie. Et je crois qu'aucune guerre au monde, aucune cruauté humaine, si absurde soit-elle, n'y pourra rien changer.
Bien, Étiez les sommes exprime là la grande richesse de la vie qui nous est donnée, de son sens, de sa direction, de cette force qui est en nous. Et dans le fond, on pourrait remplacer la poitrine nue de la vie contre la poitrine nue de Dieu.
De Dieu, c'est ça, exactement.
Ses bras qui m'enlacent sont si doux, si protecteurs. Ça exprime sa relation à Dieu.
Oui.
Ce qui est une relation de confiance, une relation d'amour. Dieu est sa force. Elle sait qu'avec lui, elle peut venir à bout de tout, même de la mort.
Ouais.
Donc, ça ne la désespère pas. Puis en même temps, c'est pas une résignation chez Étiez les sommes. Elle est engagée à accompagner et à aider tous ceux qu'elle rencontre à s'ouvrir à cette présence de Dieu, les ennemis comme les amis.
Quand on pense à la Shoah ou à l'Holocauste juif, la question de la puissance de Dieu rebondit, hein, inévitablement. Et là, on se demande, mais où était Dieu à ce moment-là? Étiez les sommes a une réponse assez impressionnante. Dans sa longue prière du dimanche matin, 12 juillet 1942, alors on va d'abord l'écouter.
Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit, pour la première fois, je suis restée éveillée dans le noir. Les yeux brûlants, des images de souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Je vais te promettre une chose, mon Dieu. Oh, une broutille. Je me garderai de suspendre au jour présent, comme autant de poids, les angoisses que m'inspire l'avenir. Mais cela demande un certain entraînement. Pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose, cependant, m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes.
Comment expliquer sa phrase surprenante? Ce n'est pas toi qui peux nous aider, oui, mais nous qui pouvons t'aider.
Ben, je pense que c'est ce qui va bousculer le plus les croyants dans leur lecture de Tilsum. Hein?
Évidemment.
Cette relation à Dieu, on se demande, mais mon Dieu, que lui apporte sa foi? Parce que souvent, les gens pensent leur relation à Dieu en termes de ce que Dieu peut nous apporter. Hein? C'est Dietrich Bonhoeffer qui disait, le pasteur protestant, qui est mort une année après Tilsum.
Dans un camp de concentration aussi.
Oui, mais lui était chrétien, donc exécuté par les nazis, et qui disait, Dieu ne vient pas réaliser en nous tous nos désirs, mais toutes ses promesses.
Ah, oui. Hein? Oui.
Promesses d'atteindre la plénitude en termes de ce que nous sommes appelés en tant qu'êtres humains. Donc, Tilsum, ici, pour moi, on retrouve ses racines juives, en contact avec un rabbin juif, avec quelques écrits que j'ai pu faire sur le sujet. Il y a une dimension importante dans le judaïsme qu'on ignore parfois, c'est son accent sur le rôle de l'être humain dans la création.
Ah oui.
Dans le judaïsme, cette dimension-là est fondamentale. Et d'une certaine manière, ben c'est à l'homme maintenant de prendre en main sa destinée. Bien sûr, Dieu est présent, mais il n'y a pas ce rapport à Dieu, comme on le voit souvent dans le christianisme, c'est pas aussi manifeste, c'est pas aussi présent. Mmh. Ce qui est préoccupant souvent dans le judaïsme, c'est ma responsabilité dans la manière d'ordonner le monde, et c'est pourquoi aussi le judaïsme ordonne autant son quotidien, ses actions, dans sa liturgie, dans les pas, les choses à faire.
Oui.
Alors, Tilsum dit ici, Dieu, dans la situation où nous sommes, tu ne peux rien pour nous. Il y a un certain réalisme hein, qu'on regarde quand un parent va mourir. Il y a des situations de la vie où on sent bien qu'il n'y aura pas le miracle qui va venir tout renverser.
Non.
Il faut s'engager dans une autre voie avec Dieu.
Oui.
Et c'est ce qu'elle fait. C'est à nous de t'aider. Dieu compte sur nous. Nous sommes partenaires avec Dieu. Nous participons d'une certaine manière à son acte de création. Et Tilsum sent bien, parce qu'elle va le dire dans le texte, ce n'est pas toi qui peux nous aider, c'est à nous de t'aider.
Oui.
Et ainsi, nous nous aidons nous-mêmes.
Ah oui.
Hein, nous nous aidons nous-mêmes. Un peu de toi en nous, mon Dieu.
Oui. Mais toujours avec lui.
C'est toute cette dynamique.
C'est ça.
Et je pense que Tilsum a vraiment saisi la grande valeur de l'être humain dans la création. Son rôle.
Vous parliez tout à l'heure de Dietrich Bonhoeffer, qui était lui-même victime des camps de concentration, et qui rejoint là, sur bien des points, Tilsum. Et j'aimerais citer ce que Dietrich Bonhoeffer a déjà dit. Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. C'est au fond ce qu'elle dit. Hein? Sans Dieu, mais avec Dieu. Dieu se laisse déloger du monde et cloué sur la croix. Dieu est impuissant et faible dans le monde, et ainsi seulement, il est avec nous et nous aide. Alors, comment Dieu, impuissant, peut-il alors nous aider?
Oui. Bien, c'est là que, moi, je trouve que la pensée de Tilsum rejoint une des pensées de Jean-Paul II dans son dernier livre, Mémoire et identité.
Oui.
Ben, Jean-Paul II a vécu à la fois la Deuxième Guerre mondiale, a côtoyé des Juifs survivants de la Shoah, avait des amis juifs avant la guerre. Il a connu le communisme, et la question se pose, mais qu'est-ce qu'on peut opposer au mal? Et qu'est-ce que la foi vient opposer au mal? Qu'apporte le Christ? Et la réponse de Jean-Paul II, que va reprendre Benoît XVI, c'est la miséricorde, qui a une limite divine imposée au mal. Et quelle est-elle dans le monde, cette limite? On ne l'a pas vue dans la Shoah. On se demande, mais bon, où est-elle, cette limite? La miséricorde. C'est une réponse, sur le coup, qui est décevante. Il faut prendre le temps d'y réfléchir. Mais dans le fond, quand on regarde le message du Christ, c'est la vie donnée.
Oui.
C'est le pardon sur la croix pour ceux qui le crucifient, qui le tuent. Et qu'une seule force capable de transformer le monde, c'est la force de l'amour, et qui implique la compassion, la miséricorde,
le
souci de l'autre, le pardon. Rien d'autre, rien d'autre. C'est ce qui nous est donné en héritage. Et Tilsum a cette intuition profonde que la vocation de l'homme ne peut s'exprimer qu'à travers l'amour, le pardon et la miséricorde, qui n'a aucune solution à travers la vengeance.
Donc, elle ne serait pas d'accord avec Vladimir Yankelevitch que vous citez dans votre livre et qui a dit un jour, le pardon est mort dans les camps de la mort. Parce que pour lui, le pardon était presque impossible, même obscène.
Oui.
Mais pour elle,
oui.
Pour Étienne et Somme, le pardon, il est nécessaire,
oui.
Et possible.
Oui.
Oui.
Je peux comprendre hein, qu'on peut vivre des situations dans la vie où on se sent incapable de pardonner. On est humain, puis on n'est pas des surhommes, et Étienne et Somme n'est pas Superwoman non plus. On la voit pleurer devant la souffrance aussi qu'elle rencontre, se décourager à l'occasion, mais elle reprend dessus. On voit son combat hein, dans son journal et ses lettres. En même temps, pour elle, il n'y a qu'une réponse au mal, et c'est le pardon. Parce que si on n'éradique pas en soi-même ses racines de haine, bien il y aura toujours la guerre, il y aura toujours les persécutions. C'est Augustin qui disait... Avant que le glaive de ta colère ne traverse ton frère, il devra tout d'abord traverser ton propre corps.
Ah oui.
Et donc, on est les premières victimes de tout mouvement de haine, de colère, et on le sait bien, on va porter longtemps ces cicatrices tant qu'il n'y a pas réconciliation. Et Étienne et Somme a ce sentiment profond que, alors que les puissances mondiales s'affrontent, que la vengeance ne mène nulle part, que ce n'est pas une solution.
Étienne et Somme savaient bien hein, que la mort approchait, le sentait.
Elle s'en doutait.
Est-ce qu'elle en parle dans son journal? Et comment elle vivait sa mort prochaine?
Elle aborde la question, oui, en même temps que ce n'est jamais définitif non plus. Elle ne se voit pas comme une mourante.
Non.
Connaissant sa personnalité puis son expérience de Dieu, il y a toujours une porte ouverte la possibilité d'une nouvelle floraison, même lorsqu'elle va prendre le train, même si en même temps elle va dire « c'est clair, on veut notre extermination ». Mais elle ne sait pas ce qu'il va lui arriver, mais elle a fait ses comptes, elle le dit elle-même, avec la mort.
Ah oui.
Elle est capable de l'accepter dans sa vie.
Elle s'est réconciliée finalement avec sa mort prochaine.
Elle dit « quand on refuse la mort dans sa vie, on se prive d'une partie de la vie. Et quand on est capable d'accueillir cette éventualité de sa mort, eh bien alors, on vit pleinement sa vie, on assume le tout. Et pour elle, la mort n'est pas une fin. Et où que nous mènent les circonstances de la vie, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, cette vie a toujours un sens. Et va garder son sens jusqu'à la fin. Et plus l'être humain cherche à garder ce sens, et en y plaçant Dieu, un peu de toi en nous, mon Dieu, bien plus il est capable d'assumer sa vie comme un être humain doit le faire. C'est le fruit d'une vie humaine, cette capacité de l'offrir, de la donner jusqu'au bout. C'est ce qu'Étienne Somme a voulu accomplir.
Ben écoutez, Yves Berriot, je redis aux auditeurs que donc vous avez publié aux éditions Médiapol Étienne Somme, témoin de Dieu dans l'abîme du mal. Alors je vous remercie beaucoup. Hein, on sait qu'Étienne Somme elle est restée juive jusqu'à la fin, et puis en même temps. Elle nous a donné, je dirais, des façons pour ceux qui sont chrétiens hein, de vivre leur foi de façon encore plus belle.
C'est un témoin de la foi.
Alors, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Je remercie bien chaleureusement Yves Berriot, dominicain. Je remercie René Cossette à la lecture des textes d'Étienne et Somme, puisés dans son journal intitulé « Une vie bouleversée » et si bien commentée dans l'ouvrage d'Yves Berriot, « Étienne et Somme, témoin de Dieu dans l'abîme du mal ». Un merci tout spécial à Justine Chevary-Cossette à la technique. Je vous rappelle que cette série d'émissions est réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal pour Radio Ville-Marie. C'est Christine Cossette au microphone. Au revoir.